Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Radio Grand Papier, votre rendez-vous mensuel de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Combien de temps encore devrais-je dire cette phrase? Jusqu'à la fin?
Eh oui.
On me dit oui. Eh bien, d'accord, je ferai ça. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous avons Stéphane qui est là ce soir. Bonsoir,
bonsoir
Stéphane. Stéphane Noël, on dit les noms ce soir, on dit les noms. Nicolas Verstappen.
Bonsoir.
Johanna Leroux.
Bonsoir.
Et puis William N, que nous accueillerons en tant qu'invité dans la seconde heure pour nous parler de la cinquième couche avec Xavier Lowenthal et Joe Radou, est déjà là. Et donc, peut-être qu'il aura l'occasion de déjà glisser quelques mots à un moment ou à un autre. Bonsoir, William.
Bonsoir.
Donc, voilà. Alors, avant de commencer par la... Malheureusement, donc, Vincent n'est pas là ce soir. Donc, pour les fans de Vincent, c'est raté pour cette fois-ci. Mais il sera là le mois prochain. Nous le saluons. Rassurez-vous, tout va bien. Avant de passer à la rubrique nouveauté avec laquelle on a l'habitude de commencer cette émission, Nicolas voulait revenir très brièvement sur une expo qui a commencé hier. Je n'en parlerai plus alors dans l'agenda plus tard. Une expo donc de Jason et Fabien Vellman autour donc de leur rencontre sur l'album L'île aux 100 000 morts. Et Nicolas, tu voulais nous en toucher un petit mot.
Oui, c'était effectivement le vernissage hier. C'est une exposition qui se veut être relater l'histoire de la rencontre entre ces deux auteurs dont on vous a régulièrement parlé, qui ont collaboré ensemble sur L'île aux 100 000 morts, un album qu'on avait chroniqué, je pense, en février. Et c'est une exposition qui reprend des planches de Jason de l'ensemble de sa carrière, depuis ses premiers récits jusqu'à L'île aux 100 000 morts, son dernier album paru. Et l'idée, c'est que toutes les planches sont commentées par Fabien Vellman, qui, en fait, au travers d'une interview qui était inédite jusqu'à présent, va expliquer comment il a rencontré, découvert l'œuvre de Jason, chaque fois vis-à-vis des planches liées, au travers d'articles que Vellman a écrits sur Jason, au travers donc de plein de choses. C'était une volonté d'apporter quelque chose vraiment du fond et de ne pas faire une simple expo fétichiste de planches sans rien. Donc vraiment essayer de raconter une histoire au travers de l'exposition, de voir comment Jason a découvert le travail de Fabien Vellman au travers de l'album Samedi et Dimanche de Vellman et Gwen de Bonneval, donc où il y a des planches de cet album-là qui sont exposées aussi. Donc c'est vraiment une sorte de voir comment petit à petit les deux auteurs vont découvrir l'œuvre de l'autre et vont avoir l'envie de collaborer et de voir le résultat de la collaboration avec les planches exposées, mais aussi le script original de Fabien Vellman qui permet de voir aussi des aspects d'un travail qu'on présente généralement assez peu et qui est assez intéressant de voir comment on passe de la planche à l'univers de Jason et comment ça fonctionne l'alchimie qui est là. Donc c'est une expo qui durera jusqu'au 24 décembre, donc vous avez encore un mois pour la voir à la librairie Multibd au premier étage pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et oui, juste signaler, donc effectivement Fabien qui était très très content de son passage, qui a hâte de participer à l'émission, donc on essaiera d'organiser ça, qui m'a écrit un petit mail là tantôt à son retour et qui me signalait qu'il avait lu Les Dunes et Panorama dans le train et qu'il avait trouvé ça très très bien. Donc on ne peut que l'aimer et que lui faire plein de compliments lorsqu'il viendra à l'émission radio.
Eh bien voilà, un homme qui s'est trouvé les mots justes pour se faire inviter.
Oui, exactement.
Très bien, je ne m'attendais pas à ça, donc si j'avais su, mais c'est très bien. Alors on va passer donc à la rubrique nouveauté, et c'est toujours Nicolas qui a la parole. Nous allons parler d'un comics qui s'appelle The Unwritten de Mike Carey et Peter Gross, et puis on enchaînera avec... une fois n'est pas coutume, un bouquin de l'employé du mois qui s'appelle I Like Your Songs d'Olive Booger.
Oui, alors The Unwritten, qui est une série qui a débuté, je pense, il y a 2 ans à peu près aux États-Unis dans la collection Vertigo, dont on vous a déjà maintes fois parlé, depuis V pour Vendetta, le Swamp Thing d'Alan Moore, jusqu'au Sandman de Neil Gaiman et de plein d'autres, a redéfini un peu le paysage de la d'une certaine bande dessinée américaine en détournant des genres pour parler de choses sociales, politiques, généralement très intelligentes, et qui, là, au travers de cette série, va aborder l'univers de la littérature, puisque le concept, puisque chez Vertigo, tout fonctionne par pitch bien foutu et concept bien trouvé, c'est l'idée que un romancier va faire une série fantastique pour enfants qui s'appelle la saga de Tommy Taylor et qui va rencontrer un tel succès qu'il va même éclipser en gros le personnage, le succès de Harry Potter. Ça devient les romans cultes par excellence et il va disparaître subitement sans laisser aucune trace et laisser juste son fils qui porte le même nom que le personnage qu'il a créé, qui s'appelle Tom Taylor. Il va le laisser porter cet héritage littéraire avec la difficulté pour ce Tom Taylor qu'il est forcément associé au personnage de fiction pour tous les fans qui voient en lui finalement ce personnage qu'ils adorent tant et lui est dans une position délicate parce qu'il n'a pas envie de porter le poids de ce personnage de fiction alors qu'il est bien réel et qu'il a d'autres choses en tête que d'être uniquement d'être à l'image de la création de son père. Mais il va découvrir, et c'est ce qui est intéressant, au travers d'une journaliste qui enquête sur lui, qu'il n'a effectivement pas d'acte de naissance, et sa propre existence va commencer à être remise en question, puisque il va petit à petit découvrir, et je ne vais pas trop en dévoiler, mais c'est important pour situer un peu l'histoire, il va découvrir qu'il est peut-être un personnage de fiction qui a été ramené à la réalité, puisque l'idée, c'est sur le principe de ce qu'avait écrit Luigi Pirandello dans la préface aux six personnages en quête d'auteur, on ne donne pas en vain la vie à un personnage, créature de mon esprit, ces six personnages vivaient déjà d'une vie qui leur était propre et qui n'était plus la mienne. Donc l'idée de base, c'est que les auteurs, les romanciers, au travers de leur fiction, donnent une véritable vie à des personnages dans un sort de plan parallèle. Ces personnages vivent d'une vie propre dans ce plan, mais ils sont perpétuellement menacés par ces autres personnages de fiction que sont les grands méchants, entre guillemets, les ennemis, le grand némésis. Et toute la question est de savoir est-ce qu'on essaie de les sauver, est-ce qu'on essaie de les ramener dans notre réalité pour les protéger, qu'est-ce qu'on en fait de ces personnages qui vivent d'un autre côté. Et puis au-dessus de ça, s'ajoute une sorte de grand complot littéraire où on va découvrir, et c'est ce qui est intéressant dans Dean Ritten, au travers de toute l'histoire de la littérature, que Rudyard Kipling, Mark Twain ou Oscar Wilde finalement ne pouvaient pas, et aucun romancier ne peut réellement écrire ce qu'il veut. Il y a une sorte de police de la littérature, une sorte de police secrète de la littérature qui oblige les romanciers à suivre certaines voies et pas d'autres, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire ou tout dire dans leur roman, parce que ça aurait des conséquences. Et ça, je vous laisse découvrir tout ça dans les romans. Alors, je trouve que l'idée, le concept est super intéressant. Il y a plein d'excellentes idées, des traitements qui sont vraiment très chouettes et une vraie connaissance de la littérature, parce qu'on voyage en même temps au travers de cette quête d'identité du personnage central au travers de la littérature. Et c'est, je trouve, assez passionnant. Il y a plein de choses excellente. Et puis il y a des phrases, des réflexions. Donc le père de Tommy Taylor dresse une sorte de carte où il essaye de voir quels sont les liens entre fiction, entre le monde réel et le monde fictionnel. Maintenant, je vais essayer de retrouver la page, mais je ne cherche pas dans le bon bouquin.
Donc, évidemment, ce bouquin, pendant que tu cherches, traite vraiment du fantasme du démiurge qui espère créer des mondes qui après vivent sans lui. Donc il y a quelque chose de l'ordre du fantasme. En même temps, c'est une forme de métaphore de la réification des pensées, c'est-à-dire que les choses qu'on peut penser et mettre sont nôtres et elles créent des monstres aussi. Donc il y a par rapport à notre époque contemporaine dans laquelle on a, à force de storytelling, puisqu'on sort d'une décade de storytelling ou de point de vue vue, d'un point de vue de l'usage de l'histoire, notamment en politique, dans lesquels on a fini par créer en effet des monstres. Quoi. Dire, notre ami, on parlait de Miller la fois passée, il a entre-temps encore fait des méfaits sur son blog assez intéressant. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de faire vivre avec rage, tenter de faire vivre avec rage des ennemis de l'Amérique à grand renfort de création quasiment fictionnelle. Donc on est vraiment dans cette idée-là.
Oui, tout à fait. Et puis il y a par exemple toute une séquence sur le mythe de Frankenstein qui est abordée dans The Unwritten qui est vraiment intéressante. Il y a une sorte de conférence sur Frankenstein où plusieurs intervenants donnent leurs idées de ce qu'est Frankenstein et qui est assez passionnant. Et puis, quand tu parles de réification de la pensée, il y a aussi toute une séquence qui se passe dans l'Allemagne des années 30 et qui voit comment on crée, entre guillemets, une sorte de pensée unique, totalitaire, au travers des mécanismes de la narration, puisqu'il y a aussi toute une réflexion sur, puisque c'est une des centres de l'ouvrage, c'est comment on impose des idées à la masse, et ce que tendrait à essayer de faire, cette sorte de police secrète de véhiculer des idées au travers des romans et de la fiction, qu'elles soient bonnes ou très mauvaises, comme on a tendance à le penser dans The Unwritten. Et par exemple, parce que moi ça me fascine, le rapport entre cartographie et bande dessinée, et il dit à un moment la carte de Walt C. Müller, une carte n'est qu'une histoire en fin de compte. Dans le cas présent, elle contient la phrase « Il était une fois un endroit qui s'appelait l'Amérique. Personne avant lui n'avait utilisé ce nom pour le nouveau continent. » Walden C. Müller a lu une lettre bourré de fausses informations, affirmant qu'Amiroco Vespucci était le premier occidental à avoir voyagé là-bas. Ainsi, une histoire est fixée grâce à une image, et cette image change la face du monde. C'est le genre de réflexions qui sont vraiment très intéressantes sur le rapport à l'image, le rapport à l'histoire, comment une idée va devenir universelle ou va devenir une histoire, même si c'est une idée qui est fausse ou erronée. Et c'est le genre de choses dont il réfléchit. Et un des seuls reproches que j'ai à faire au bouquin, c'est que la narration est pas le graphiquement, c'est ultra classique, c'est pas super, ça donne pas très envie, c'est très propre, trop propre même. Par rapport au fond, qui est super intéressant, je trouve que la forme est beaucoup trop classique.
Elle est ultra canonique.
Maintenant, voilà, peut-être qu'avec la complexité de ce qu'il veut aborder, il est resté à quelque chose de très linéaire au point de vue, justement, de la ligne.
Aussi, par rapport à ça, comme il veut tracer la route, il va en dire beaucoup, c'est très chargé en contenu, du coup, il est obligé d'éclater la narration sur différents supports pour un peu faire avancer le truc à toute blinde, donc des extraits de blog, des interviews télé, etc., donc des choses, des conférences, donc des tas de systèmes narratifs.
Il y a la mise en abîme, puisqu'il y a le roman qui va être illustré même dans la BD, où on va découvrir les fameuses aventures du personnage fantastique de Tommy Taylor, etc.
De nouveau, on a ce fantasme du démiurge qui crée un monde cohérent à travers différentes manières de recouper l'histoire par différents médiums. Et donc ici, il le fait à travers toutes sortes de systèmes, et parfois, ça sent le bon gros désir de scénariste à toute blinde.
Après, moi, je trouvais ça assez intéressant, justement, en tant que lecteur, finalement, en tant que lecteur, moi, je me suis senti malmené assez fort, en fait, entre réalité, entre fiction, entre ces différents étages, comme ça, de l'histoire. Et on glisse beaucoup. Moi, j'ai l'impression que, sans arrêt, on dérape sur des trucs, on tombe dans une autre histoire, et puis on a l'impression, sur 2-3 pages, qu'on retrouve un peu de stabilité, et puis, hop, on est de nouveau emmené autre part, et puis, comme c'est assez dense, en effet, parfois, j'ai même l'impression que j'ai pas eu le temps de lire tout ce qu'il y avait sur la page, que je suis déjà emmené ailleurs, comme ça, de manière imperceptible. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est ce côté, le lecteur est finalement assez bien secoué, assez bien balancé, et il y a un côté assez déroutant quand même. Et c'est vrai que, du coup, le classicisme un peu du graphisme, moi, m'a moins marqué, parce que c'est assez haletant, finalement, comme récit, et qu'il y a tellement d'infos comme ça qu'on doit essayer de traiter en tant que lecteur, que voilà, moi, ça, c'est un peu passé du coup.
Mais pour aborder ce genre de BD, il faut avoir envie de se plonger dans une saga. Vraiment, il faut être prêt à recevoir en un volume un tas d'informations assez décousues, parce qu'il place les choses, parce que ça va être je ne sais pas combien de volumes, finalement.
Aucune idée.
Moi, j'étais pas.
Donc là, il y a deux tomes à l'heure actuelle.
En français, aux États-Unis, ils sont à 5. Et il y a un sixième qui sort bientôt.
Moi, j'étais pas spécialement disposée à ça. Et du coup, j'ai décroché un moment. Parce que c'était trop. La maquette est assez confuse. Enfin, c'est pas.
Oui, tout à fait.
Pas forcément au sens péjoratif, mais c'est chargé, quoi. Et il y a un moment, j'en avais marre qu'on me traîne. D'un coup, on m'arrache à un truc pour me raconter, commencer à me raconter autre chose. Et à un moment, j'en avais marre. Donc il faut être prêt à se dire ok, je vais m'en prendre plein la gueule parce qu'on place les choses et. Faut avoir cette envie-là, je pense, pour aborder un livre comme ça, enfin, une série comme ça.
Ça avait été vendu aux États-Unis comme le Sandman était un des plus gros succès américains de Vertigo, comme étant le nouveau Sandman. Maintenant, Neil Gaiman est un narrateur bien plus doué, je pense, parce que sa saga est assez incroyable, mais on n'est pas aussi mal mené. Je trouve qu'il y a une richesse absolument incroyable dans le Sandman, mais où il a une capacité de placer son univers de façon beaucoup plus efficace et en prenant vraiment le lecteur avec lui. Effectivement, dans Diane Wheaton, on est plus malmené. Maintenant, je trouve qu'au point de vue du fond, il y a des idées assez incroyables sur la littérature, la fiction. Enfin, il y a vraiment d'excellentes idées, des références. Je trouve qu'on apprend en plus sur la littérature plein de choses. Et puis, c'est clair qu'il y a vraiment un fond. Donc, voilà, je trouve vraiment intéressant à découvrir si on a, comme tu le dis, envie de se plonger dans ce type de saga ou ce type de récit, tout en sachant que c'est parfois moins évident, je sais pas, qu'il faut, faut s'accrocher parce que,
oui,
comme tu disais, on est mal
moi
mené.
Étant plutôt
positif pour
positif,
toi, voilà. Oui, donc voilà, ça c'est en fonction du.
Il faut remettre les choses, enfin nous, voilà, on se lit une série de BD. Moi, j'étais déjà limite à saturation quand j'ai commencé à lire celui-là, donc forcément. Donc, il faut juste être tranquille, avoir la soirée devant soi et pas avoir déjà la tête comme une pastèque pour aborder ce genre d'ouvrage.
Il y a toujours cette maison de campagne que possède Radio Grand Papier où tu peux t'isoler pendant un certain nombre de jours. Alors, on va passer à la suite.
Oui, juste signaler que Vertigo, en français, passera bientôt chez un autre éditeur, puisque la Vertigo était publiée par Panini Comics à partir de janvier. A priori, ça passera chez Urban Comics, une nouvelle maison d'édition qui s'occupera de DC Comics et de Vertigo. Et si je puis conseiller à nos auditeurs, peut-être d'attendre un peu les rééditions de ces bouquins dans leur nouvelle collection, puisqu'ils sortiront les albums avec parfois des éditions cartonnées qui devraient être assez belles et des nouvelles traductions qui devraient être aussi, je crois, plus réussies, puisque c'est une des seules remarques que j'aurais à faire chez Panini, c'est que la traduction n'est pas toujours ultra réussie et que là, le nouvel éditeur revient au traducteur qui avait fait toutes les grandes traductions des Watchmen, de Vendetta et autres, qui sont quand même des traductions absolument impeccables généralement de ces ouvrages-là. Donc dans quelques mois, peut-être vous pourrez trouver des versions, des nouvelles éditions qui seraient peut-être plus intéressantes. Donc peut-être un peu de patience. Ce serait un conseil que je glisse comme ça si vous voulez vraiment profiter au maximum.
Par contre, pour Noël, vous pouvez quand même acheter le I Like Your Songs, qui lui ne sera pas retraduit ou recartonné a priori dans les mois qui viennent. Nicolas, c'est quoi ce livre ?
Ah, ce livre, eh bien, écoute, c'est un de mes grands coups de cœur de l'année, parce que j'ai vraiment, dans les bouquins de cette année, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus plu, parce que je suis rentré dedans, et alors j'ai été totalement happé par cet univers qui est un. Alors, je ne sais pas comment le définir. La première chose qui m'est venue.
Pour remettre en contexte, Olive Bouger, c'est un jeune auteur français qui vient de Strasbourg, si je ne m'abuse.
Banlieue française, je crois. Mais
il habite plutôt en banlieue parisienne pour l'instant. Qui est assez actif dans le fanzine. Il a fait beaucoup de fanzines. Il a un blog aussi. Il poste beaucoup de choses. Et donc là, c'est son premier livre. À l'employé du mois, et je te repasse la parole.
Tout à fait, et j'avais le sentiment un peu de lire quelque chose qui tenait du Black Hole de Charles Burns, dans ses ambiances étranges, morbides, d'adolescents qui vivent dans la marge de la société américaine, vraiment ce décalage. Je trouve vraiment cette ambiance-là qui ressort au point de vue thématique et à côté de ça un graphisme qui l'a été, je trouve, qui m'a fait penser à du Julie Doucet dans ce côté un peu sale, où tout semble sale, tous les trottoirs sont jonchés d'ordures. Il y a vraiment ça chez Julie Doucet, ce côté tout semble sale et pourtant quand on lit il y a aucun problème de lecture. Je veux dire, les codes sont vraiment maîtrisés, tous les signes permet vraiment une lecture très, très facile, c'est pas du tout fastidieux.
Il y a un côté vraiment poisseux, quoi.
Il y a un côté poisseux, mais qui n'est pas, qui ne rend pas la lecture désagréable. Des fois, tu as du poisseux, du sale, où tu te dis, oh là là, c'est pas maîtrisé. Mais là, c'est comme dirait David Libens, c'est pas du faussement maladroit, mais c'est du. Il y a ce côté où ça marche super bien. C'est vraiment maîtrisé, c'est impeccable. Le découpage aussi, qui est très très intéressant.
C'est même beaucoup plus propre qu'une histoire qu'il avait faite dans Crisp, qui s'appelait Moi de coton. On va pas expliquer ce que c'était, mais ça c'était vraiment sale.
Ouais.
Et le High Lecture Song, c'est un peu plus propre, on va dire.
Tout à fait, et donc super agréable. Et puis on va suivre, donc, pour en venir enfin à un peu de contenu de narratif, on va suivre trois adolescents canadiens totalement paumé, en marge, Barney, qui est une sorte de loser, qui passe par la souffrance physique, il se fait brûler la peau, il se plante en skateboard, il a une sorte de rapport un peu à la douleur, une sorte de besoin d'exister, de se sentir vivre au travers de la douleur, et Julia et Emily, qui sont deux copines totalement allumées, une étant Julia, une sorte de meneuse, et Emily qui la suit un peu dans ses délires de quitter l'école, de faire le mur, d'expérimenter des trucs débiles. Et ces trois jeunes personnages vont se rencontrer, vont se lier un peu d'amitié, ou en tout cas vont se reconnaître les uns les autres comme étant vivant la même chose, et tomber eux sur un adulte, David, qui est une sorte de tueur en cavale, qui va les emmener au bout de la nuit, peut-être au bout de l'enfer, mais en tout cas dans quelque chose dans une virée nocturne particulièrement sombre. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que je retrouve toute la force des grands récits, des grands auteurs américains que j'adore, que ce soit Burns, Doucet ou d'autres, qui sont, je trouve qu'il y a ce côté très BD américaine qui moi, me passionne, parce que je la trouve vraiment intéressante. Et puis, ce côté, ce rapport au sensoriel, parce que c'est vraiment un album où tous les sens sont mobilisés, parce que c'est tous ces personnages vivent au travers de la douleur, au travers de l'extrême. C'est des adolescents perdus qui ont le besoin de faire des choses dangereuses ou de se blesser pour réussir à se sentir quelque part, pour exister dans ces banlieues, dans ces fameuses banlieues canadiennes ou américaines où ils sont laissés un peu pour compte, où ils n'ont aucune perspective d'avenir, ils n'ont rien, ils sont juste dans ces maisons qui se ressemblent toutes, et tous ces fameux suburbs, je pense, comment on les appelle. Et ça, c'est passionnant, parce qu'il y a le rapport au désir physique, il y a le rapport à la mort, il y a des séquences où on voit les personnages uriner, il y a des choses très physiques, il y a des personnages qui sniffent du gaz de briquet, où c'est le rapport olfactif, où il rend tout ça, où Olive Booger rend tout ça d'une façon très très réussie. C'est quand on commence à le lire, il y a vraiment le côté chronique d'un drame annoncé, parce qu'on se dit, oula, comme c'est parti, ça va mal se passer, mais il n'y a pas ce côté, ça va mal se terminer, mais il n'y a pas ce côté complaisant non plus. On part avec les personnages, il y a une empathie qui se crée avec certains, parce qu'effectivement, c'est vraiment intéressant, et c'est noir sans être non plus plombant, ou vraiment faire du noir pour du noir. Je trouve qu'il y a vraiment, on suit les personnages, il y a une logique, il y a un vrai truc qui se passe. Et voilà, moi j'ai trouvé, je suis sorti du bouquin secoué et repu, et j'avais vraiment lu un bon bouquin. qui tenait la route tant au point de vue du récit, des personnages que du graphisme. Donc c'était vraiment une très chouette découverte que ce bouquin, avec d'ailleurs une très très belle maquette, il faut aussi le signaler.
Oui, on parlait... Je me rappelle qu'un des trucs qui m'a marqué chez les Dardenne, dans la manière dont ils parlaient de leurs personnages, c'est qu'ils disaient que le cinéma, c'était donner du corps, ça faire parler les corps. Et ici, il y a, étrangement, dans ce bouquin, quelque chose de la présence des corps. On parlait de moiteur, d'un rapport physique, etc., qui donne vraiment un poids à ce bouquin. C'est difficile d'en parler, parce que bon, on l'a tellement eu sous les yeux, non plus du moins, on l'a relu, on l'a regardé, on a écrit des...
Ce n'était pas mon cas, je tiens à signaler, comme ouais, ça, je l'ai découvert il y a une semaine, imprimé, donc je n'avais pas, moi, le rapport à...
Et pendant tout le moment, on a maquetté ce bouquin, on en parlait assez bien et on avait tous des frayeurs parce que c'est un bouquin assez chargé, assez noir, un dessin qui est pas nécessairement facile. Mais quand on a eu le bouquin dans les mains il y a deux semaines, moi je l'ai pris, je l'ai ramené chez moi, je l'ai laissé là dans un coin pendant quelques heures. Puis à un moment donné, j'ai quand même mis la main dessus, je l'ai feuilleté et j'ai repris la lecture comme ça, l'air de rien, juste en feuilletant. Et j'étais directement dedans et... dans l'avoir en livre dans les mains lui donner vraiment corps aussi, et donc j'ai fermé après 10 pages en disant ok, c'est un bon livre, on peut être fier. Et donc voilà, donc on est content de ce boulot éditorial. Il y a un truc assez intéressant que tu n'as pas signalé, c'est que bon, le bouquin se passe dans une espèce de suburb américain, en même temps Booger le dessine comme quelque chose qui est relativement proche dans L'homme hilar de Salinger, qui est une nouvelle que j'aime beaucoup. Salinger parle de la frontière sino-parisienne, parce qu'un de ses personnages a une des notions de géographie relativement hésitante, et donc son personnage de fiction qu'il crée navigue constamment entre la Chine et Paris, qui sont présentés comme des choses frontalières. Et il y a quelque chose, l'air de rien, de cet ordre-là dans ce bouquin, qui est à la fois dans une banlieue américaine, mais qui pourrait être aux prises uniques du coin aussi en même temps. Il y a quelque chose de ça qui est assez
touchant. Ça remonte, ces sortes de rapport à la France, comme ça, de banlieue plus française.
Oui, ce n'est qu'à la fin, ce n'est qu'au dernier quart du bouquin que je me suis rendu compte qu'on n'était pas en France. Parce que je l'ai lu, il y avait des choses que je trouvais un peu extrêmes pour des faits divers qui tiennent plus dans une logique de faits divers américains, malheureusement. Mais c'est qu'à la fin du bouquin qu'au travers, je ne sais plus, il y a un personnage qui dit effectivement, pas qu'ils sont au Canada, mais qui... Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'on était ailleurs. Mais effectivement, il y a ce côté-là qui est intéressant, parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite de l'endroit où on est.
Moi, c'est marrant parce que ça m'a gêné, en fait. J'ai perçu un côté un peu bâtard comme ça. Je me suis dit, je sais que cet auteur-là, il vit en banlieue parisienne, et je me dis, pourquoi il n'a pas situé ça en France ? Ouais, ça m'a un peu gênée en fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas juste une fascination pour le comics américain qui fait qu'il a situé ça plutôt aux États-Unis ou au Canada ? Moi j'ai cru que c'était aux États-Unis, alors que je me dis, après tout, ces ados, moi j'ai l'impression de les reconnaître profondément, et j'ai l'impression que c'est un esprit quand même plutôt français. Alors je dis ça avec des pincettes, j'en sais rien, mais ça, je me suis dit, voilà, ça aurait très bien pu être... En France.
Mais non, je crois qu'il y a en effet une part de fantasme chez lui,
oui,
qui est en action. Après, parce qu'on parlait aussi d'auteurs, tu as parlé de Julie Doucet ou de Charles Burns, mais nous on avait évoqué une époque plutôt du Matt Conture ou du JC Menu, des choses comme ça. Et donc voilà, moi je l'ai en tout cas vraiment perçu comme étant un bouquin, il fait une sorte de grand écart comme ça. Et du coup, parfois le grand écart il est un peu curieux parce que on se pose un peu des questions, mais voilà. Après, c'est ça qui, enfin, pour moi, ça allait plus du côté du charme du bouquin plutôt que d'un aspect dérangeant, je dirais.
Je trouve qu'il y a par contre, justement, par rapport à ce que dit Johanna, je trouve qu'il y a justement une vraie une filiation que Nicolas soulignait par rapport à la bande dessinée américaine. Et j'ai découvert son travail, donc j'ai pas encore lu la version papier qui prolonge ce qu'on a déjà pu lire en ligne. J'ai découvert son travail sur grand papier, et ça m'a toujours frappé, cette filiation justement avec l'underground américain, au niveau en tout cas graphique. Il y a cette espèce de densité en termes de modelé et tout ça, d'expressivité des personnages, qui m'a vraiment systématiquement toujours fait penser à l'underground américain comme il est né dans les années 70.
Oui, c'est clair que c'est là. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toute une série d'influences, de fantasmes qui sont digérés et qui sont ici réingurgités sous forme de bouquins. Donc là, il y a ce côté-là qui est...
Et puis c'est comme on en avait parlé avec Ludovic de Meurne dans son René, qui est vraiment, quand on lit René, on a l'impression que c'est lui, il a fait aussi une sorte de synthèse de ses auteurs favoris. Il y a du Chester Brown, il y a vraiment une synthèse graphique de... Il y a du Daniel... C'est une sorte de mix entre Chester Brown et Daniel Close, qui et un peu Charles Burns pour certains. C'est une sorte de synthèse de ces trois auteurs-là en un bouquin. Et ça, moi, ça a super bien marché. Dans René, je trouve aussi, donc cette synthèse graphique marche bien, et je trouve que Jolie Bouguère, elle marche super bien aussi. Il n'y a pas...
D'autant que
à mon référencé non plus. On n'a pas l'impression qu'il copie un auteur américain, ou qu'il a trouvé son style, qui est un style à l'américaine, mais qui marche.
Oui, j'identifiais cette filiation, mais il arrive à quelque chose de tout à fait singulier, qui est vraiment propre à lui.
Tout à fait. Enfin, là, je voulais juste aussi dire, par rapport à ça, on parlait d'influence française. Il ne faut pas oublier que dans les années 90, dans les fins des années 80, début 90, on a aussi toute une émergence d'un fanzine post-punk avec des choses assez intéressantes qui recyclaient. On pense par exemple à des gens comme Blanquet et toute cette génération de Sortez la chienne, etc., qui faisaient des dessins assez sales, assez noirs, travaillés, très modelés, qui recyclaient eux aussi une influence américaine, mais qui a donné un espèce de jus à la française, à Dubois, probablement Bouguer. Donc il y a, on reçoit comme ça, on boit à toutes les tétines dans ce bouquin.
Voilà, alors c'est, de par son titre, mais aussi de par finalement son rythme, c'est un bouquin qui est assez musical aussi. Vous trouverez, si je ne m'abuse, hein, tout à la fin du bouquin, une série de chansons qui ont inspiré un peu le bouquin.
C'est comme dans Jonathan, les trucs qu'on doit écouter pendant qu'on lit le
bouquin. Tout à fait. Jonathan de Neil Diamond, c'est ça? Non, pas celui-là. Et donc voilà, après avec une petite épilogue aussi, je vais pas vous en parler plus. Et donc on va, pour clôturer cette séquence, s'écouter un des morceaux. En fait, c'est les deux premiers morceaux de l'émission qu'on va écouter, qui sont extraits de cette song list, je sais plus comment on dit. Et le premier morceau, c'est un morceau où il ne faut pas aller aux toilettes parce que c'est beaucoup trop court. C'est évidemment un morceau des Ramones et c'est Rockaway Beach.
Relation.
Ah. Et oui, et voilà ce qui arrive avec les Ramones, c'est que les gens qui ne font pas attention sont surpris en direct. À la régie pour le morceau suivant, et Stéphane qui est en pleine discussion avec Nicolas. Donc c'est très bien, voilà, c'est comme ça. Seconde partie de la rubrique nouveauté, on va parler, Johanna va nous lancer sur les amateurs de Brecht Evans, on enchaînera avec Vers la sortie de Joyce Farmer, et on finira par le Pierre Crinias de Attaque et Fil chez Frémok. Johanna.
Voilà, donc on avait déjà parlé des Nos Sœurs, le premier Brecht Evans, que j'avais beaucoup aimé, et bizarrement, j'ai pas eu spécialement envie de me jeter sur ce deuxième volume. Je pense que j'avais un peu peur d'être déçue, parce que ce qui est génial avec les Nos Sœurs, c'est la claque que tu te prends, tu découvres son univers graphique. Et là, c'est un peu un pavé qui a l'air un peu plus austère, donc moi je fais référence à l'édition néerlandaise originale, des Nos Sœurs, qui est une couverture super aérienne avec juste quelques aquarelles. Enfin, c'était un truc sublime.
Une impression semi-pelliculage transparent qui faisait apparaître le titre. Donc, c'est en bougeant la couverture qu'on pouvait lire le titre, parce que sinon, il était invisible en fait.
Ouais, c'était vraiment subtil.
Magnifique. Et, ouais. C'est vraiment une des plus belles maquettes qui étaient faites en BD.
C'était un peu un livre qui te séduisait direct. Et alors, celui-là, c'est plutôt un pavé sombre. Un peu, pas austère, mais voilà, c'est vraiment un autre genre d'objet.
Avec le côté bel objet.
C'est un gros livre, couverture, voilà. Mais je vais le décrire en détail, parce que c'est une expérience.
Mais juste pour dire que cette édition-là, enfin l'édition normale, on va dire, arrivera par la suite, quoi. Mais pour l'instant, donc il y aura une autre édition.
De celui-ci
Oui, voilà, tout à fait. Donc les amateurs sortent
une édition souple.
Ah ok.
Et la première
édition... Alors jetez-vous sur l'édition voilà. actuelle, parce qu'elle
Parce que l'édition actuelle est vraiment est particulière, est limitée, et Johanna, tu vas nous en parler.
Voilà, ça m'a fait... ce livre m'a fait penser à un vêtement de luxe. Le costard, quoi. Le costard où quand tu l'ouvres à l'intérieur, le tissu continue à être super classe. Donc là, on ouvre ce livre. Donc la jaquette, c'est un recto verso cartonné, épais, plié. Tu l'ouvres et à l'intérieur, tu déplies et il y a une image entière peinte. Et alors, même à poil, le livre en soi est magnifique. C'est un beau bleu embossé. Le poids de la couverture. Non, là, on n'entend pas, mais nous, on l'entend, mais les auditeurs ne vont pas l'entendre. Et alors après, tu continues ta découverte et tu ouvres et les pages sont un peu épaisses et se tournent à la perfection. Donc déjà, ça, c'est juste le bonheur de tenir un livre dans ses mains. C'est juste, je trouve que c'est un peu important.
Tout à fait.
Et donc après, bah, le contenu, donc, ben, on a un Brecht Evens qui fait toujours aussi bien de l'aquarelle et qui fait des choses... Enfin, je ne sais pas si c'est de l'encre ou de l'aquarelle, en fait. Mais bon.
De l'écoline.
De l'écoline. Et donc, c'est... Je trouve encore un peu plus fin, encore un peu plus maîtrisé. Donc rien que la couverture, il y a un fouillis de végétation, il y a un traitement de la lumière, c'est un clair-obscur, enfin, c'est vraiment époustouflant.
Oui, c'est marrant parce qu'à la librairie, on a mis, les bouquins sont présentés côte à côte, là, Lilac Short Songs, ouais. Et on avait le rapport végétal comme ça, qui se poursuivait d'un bouquin à l'autre avec le jeu sur la lumière, qui était assez intéressant.
On a ça. Et alors, en même temps, donc, il maîtrise encore un peu plus sa technique. Et en même temps, il prend un peu des risques parce qu'il amène un peu de crayon, il amène un peu des nouvelles encres un peu plus opaques. Et il gère toujours aussi bien sa mise en page, je trouve. Et alors, on a un récit, je ne sais pas combien de pages ça fait, il n'y a pas de pagination. C'est un gros pavé. Et je trouve que, autant j'étais assez réticente sur le premier récit qui se termine un peu bizarrement, celui-ci, j'ai vraiment trouvé qu'il tenait du début à la fin. On a toujours un personnage central qui est un peu attractif, comme ça, qui mène un peu la danse et voilà, qui est un peu séduisant, mais il est plus complexe que dans les Noceurs parce qu'il a des doutes. Et déjà, c'est un peu plus ancré dans le réel. C'est l'histoire d'un mec artiste, mais qui est un peu laissé sur la touche comme ça, qui est invité dans un festival, une biennale, mais qui se passe dans un bled
flamand,
un peu paumé.
C'est assez ancré dans ce côté flamand. Hein. Ouais.
Les prénoms sont flamands, etc. Donc ça, c'est pas mal.
On parle de la séparation du pays, fin de la Belgique et tout ça. Donc ça, c'est clairement revendiqué. Et voilà.
Et alors, il se retrouve avec d'autres artistes, mais vraiment les petits artistes vraiment un peu frustrés. Et donc, on retrouve un peu les mêmes thématiques que dans le premier livre, qui sont les relations entre les gens avec l'admiration, les petites faiblesses, les petites failles, la jalousie, la séduction, les complexes. Et je trouve qu'il est super fort là-dedans. Je trouve ça super affûté.
Oui, moi je trouve ça.
Je trouve que ça se tient du début à la fin. On a vraiment un récit. Donc au-delà du fait que graphiquement ce soit hyper un travail assez époustouflant, bah en plus, moi je trouve que le récit est, on est vraiment mené du début à la fin. Il y a pas de creux. Parfois il se permet d'introduire des petits personnages. Par exemple le père. Enfin il est logé chez les parents de l'organisateur. Le père qui est un peu malade, il y a une scène à l'hôpital, c'est deux pages, après on ne revient plus jamais dessus, c'est juste...
Il arrose le jardin.
Ensuite, il arrose le jardin, mais donc il y a deux scènes qui sont toutes petites, comme ça, sur un gros pavé, et c'est à chaque fois ces petites claques.
Oui, il y a le personnage, j'ai oublié son nom, qui invite l'artiste qui a des mains gigantesques. Ouais. La façon de dessiner ses mains, rien que ça, c'est superbe. Quoi. Il y a aussi le côté, je trouve, chez Brecht Evens, sensoriel, qui est assez important, parce qu'il y a de la texture, ouais. Et la façon dont tu peux rendre, avec, surtout parce que les personnages ont des couleurs, un peu, leur sont un peu attribuées. Ce personnage-là est lié au rouge, il est tout le temps avec... Et visuellement, il le fait exister. Ce qui est vraiment intéressant, si, au point de vue du personnage, je trouve que les Noceurs, il y a deux personnages, il y a le timide et l'extraverti, mais en réalité, finalement, c'est l'histoire d'un seul personnage, c'est le même, ce serait deux faces d'une même personne. J'ai plus ce sentiment-là en lisant les Noceurs, que c'était deux aspects d'un personnage unique, en fait, qui avait deux expressions, soit timide, soit excessive, mais qui sont peut-être finalement ce qu'est l'auteur lui-même par rapport à sa personnalité. Mais bon, ça, je ne veux pas psychanalyser.
Mince.
Brecht nous rejoint, mais qui, en tout cas, de l'avoir rencontré, m'a peut-être fait donner ce sentiment-là. Et puis là, effectivement, je trouve qu'on est avec des personnages qui sont plus construits, avec lesquels on a beaucoup plus d'empathie, parce que, véritablement, il y a des personnages auxquels on s'attache profondément, qui sont là, ils existent, et on est avec eux, donc ça c'est très beau. Et moi je trouvais qu'il y avait un côté, ça m'a fort fait penser à, au point de vue de la thématique, à Astérios Polype, dans ce côté rapport à l'art, où effectivement il y a toute une série de réflexions sur l'art, mais qui là est joué à quelque chose de... Astérios Polype, c'est le grand architecte qui n'a jamais rien construit, et on retrouve des thématiques, la construction par exemple, qui est intéressante, parce que dans Astérios Polype, il n'a jamais rien construit de sa vie, et puis ça va lui donner un moment de construire quelque chose de ses mains, etc. Il y a toute une série de choses que je trouve qui sont de la même filiation et du même rapport, qui sont très, très intéressantes, sauf que effectivement, je trouve les personnages ici plus attachants que... Ça ne l'était chez Astérios Polype, où il y a quand même une certaine, parfois, froideur qui est présente dans la démarche, qui est ultra, je trouve, intellectualisée chez Mazzucchelli, et où, dans Les Amateurs, on est beaucoup plus, même si ça reste avec une vraie réflexion de fond sur... et ça, effectivement, on en a souvent parlé à l'émission, de l'accomplissement au travers de l'art, s'accomplir, etc. Mais qui, là, je trouve, est intéressante parce que... Mais bon, ça, tu pourras intervenir dessus, je me doute que tu le feras, sur le fait, le partage, cette façon de travailler en commun, même si le résultat, quel que soit le résultat, c'est l'important de travailler et d'échanger. Et il y a quelque chose de très beau dans ces personnages, dans leurs relations. Effectivement, comme tu le dis, il y a tout ce rapport aussi de respect, d'admiration. Il y a tous ces sentiments qui sont bien isolés, qui présentent vraiment comme, pas des figures, mais où ça c'est la jalousie, ça ce serait... de façon peut-être comme au théâtre, comme dans une pièce de théâtre où classique, où il y a ces sentiments qui sont pas théâtre. J'essaie de retrouver ma référence, mais peut-être le plus de l'Antiquité, alors, du théâtre antique, sur ces rapports de grandes figures, la jalousie, la mort, où c'est présenté de façon assez concrète, mais où ça marche bien. Fin.
Il y a aussi autre chose que je voulais dire, c'est... Une des spécialités de Brechthaven, c'est aussi de faire émerger à un moment des mondes complètement fous, qui décrit super bien. Et tu vois ça, t'as des doubles pages en couleur et tu fais waouh, ça sort d'où ?
Oui,
alors là,
sur des bords de lac et des choses comme ça.
Alors autant dans Les Noceurs, tu pouvais te dire bon, le mec il est un peu magicien, donc c'est un peu facile, il faisait émerger des univers comme ça en ouvrant une porte. Et là, je trouve qu'il a réussi à garder ces univers complètement fous, mais en fait c'est pas gratuit du tout, c'est tout le temps lié au récit, il y a toujours quelque chose de réel, ils sont au bord du lac ou ils sont dans une forêt, c'est magique, comme quelque part tu peux le percevoir si un jour t'es au bord d'un lac et que voilà, tu vois les choses un peu différemment ce soir-là, et je trouve qu'il a réussi à garder ce côté fou, une manière de présenter la réalité qui est quand même incroyable.
Dernière page, qui est une double page, qui est une diapositive de forêt exotique projetée sur trois chanteurs mexicains, et où en fait on regarde, on voit juste la forêt, et puis quand on est attentif, on voit apparaître en fait les silhouettes des personnages, et c'est absolument superbe. Ouais. On reste devant une image comme ça, à regarder chaque détail tellement, c'est méga malaise.
Pour moi, le dessin amène aussi un véritable rythme, je trouve, hormis le fait que les pages sont souvent à tomber par terre. Il y a des pages qui sont très dénudées, où des personnages semblent se perdre comme ça dans le blanc de la page, puis on tombe sur une double page très chaude, très fournie, très dense, et puis on passe de nouveau à autre chose. Et ça rythme finalement, je trouve aussi la lecture, il y a ce côté-là qui est assez intéressant, le rythme est donné comme ça. Et juste pour revenir, on l'a évoqué à demi-mot, cette scène en effet de ce grand-père, de ce père qui a du mal à arroser ses plantes, cette scène-là est fabuleuse. Et il y a aussi ce personnage d'handicapé mental, Denis, qui est un personnage aussi quand même très riche, parce que de nouveau, sans l'air de vraiment y toucher, il aborde quand même la question de l'handicap mental. Moi, je trouvais ça... Là, en effet, aussi, dans le même sens que vous, en disant qu'il y a des personnages sans doute un peu plus riches et mieux construits qu'on avait dans Les Noceurs.
Bah écoutez, moi je partais avec des méga pieds de plomb parce que Les Noceurs m'avaient vraiment foutu en colère à l'époque. Je trouvais que c'était vraiment un bouquin sur la vanité et un bouquin vaniteux. Donc j'étais vraiment assez remonté. Quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, ça y est, il est reparti, il va me faire une belle redite. Et ce personnage, et en plus, ça parle de l'art. Donc de nouveau, je me suis déjà énervé sur le fait que les artistes, à un moment donné ou à un autre, voulaient présenter l'art comme une forme de réalisation de soi supérieure à tout le reste, qui est un comportement de défense de son bout de gras à l'intérieur du monde libéralisé, qui m'emmerde un peu. Et donc j'ai lu ce truc en disant, allez, vas-y, ramène-le ton truc. Et de page en page, il a réussi à me grignoter. Et j'ai trouvé ce bouquin beaucoup mieux construit. De fait, on a un personnage pour lequel j'ai pu avoir de l'empathie, alors que je partais en me disant, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était trop bien mené, cet artiste second couteau qui arrive en province où il devient une star locale. Donc on se dit, bon, allez, c'est bien construit, ramène. Et puis, peu à peu, il construit en effet cet univers de personnages et il s'en tire parce que ce personnage se salit au contact des autres. C'est-à-dire, il échange des traces au sens criminel du terme. Donc chacun met sur l'autre un peu de lui-même et au final, enfin ça je reviendrai plus tard, on a quelque chose comme une morale qui est un peu étrange. Alors par rapport à cette posture de l'art, donc on a un artiste qui débarque en province et qui va essayer de faire vivre la région en produisant un acte culturel qui le portera au-delà des médias, donc c'est la charge du personnage.
Il doit collaborer, c'est surtout ça qui est important.
Et il doit collaborer, c'est la grande finesse de Brecht Evans dans ce bouquin, c'est de montrer le côté absolument forcé de cette collaboration, la manière dont ce personnage va devoir composer avec ça, et il compose plutôt mal, plutôt bien, en faisant des discours un peu plats et très bienveillants sur l'ensemble des gens qui bossent, écartant quand même le psychotique qui l'emmerde vraiment trop, etc. Donc il y a une série de situations qui sont assez justes, très bien observées, où on se dit, ah, Brecht Evans tire quelque chose de sa propre expérience, j'ai quelque chose dans lequel j'ai pas seulement un winner et des losers, comme on l'avait dans Les Noceurs, mais quelque chose qui est un peu in between. C'est d'ailleurs assez intéressant de remarquer qu'au début du récit, on part d'une scène qui se passe dans une galerie dans laquelle il y a un vernissage avec un ultra winner qui est le gars qui dit, vous êtes tellement beaux tous les deux, je peux vous embrasser, mais il embrasse que la nana évidemment, etc. Donc un truc comme ça de personnage flamboyant comme l'était le personnage de Noceur. Et moi je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il va faire de ce personnage? Et en fait il évacue, et à un moment donné on est sur l'autre gars, on est sur le mi-loser de cette soirée qui devient transposé à la campagne, celui qui va devoir porter le récit. Et donc ce renversement là par rapport au Noceur, je me suis dit que c'était
de l'émission.
Une belle saute.
Je pense qu'il avait écouté l'émission et il a pris conseil.
Ça commence à avoir des problèmes d'ego. Hein.
Non, mais il a une manière d'observer les gens et de les remettre en scène en BD qui est quand même incroyable.
Qui est fine, oui, qui est assez fine. Et donc voilà. Après, pour la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce bouquin, c'est la posture de l'art et la fonction de l'art. Et donc ici, il va faire cette œuvre qui devra rassembler les gens autour d'un projet, faire vivre la région au-delà de ses frontières, etc. Donc un projet ambitieux typiquement, qu'on peut rencontrer typiquement dans des projets un peu artistiques, dans des petites communautés, dans des villages, etc. Et ça a assez bien restitué ce point de vue-là. Après, je me suis dit, ok, ils sont en train de fabriquer ce truc à mon avis, il va cramer ou quelque chose comme ça. Et de fait, il lui arrive malheur, on va pas dire comment ni comment, etc. Et donc du coup, on se dit, ok, si on regarde ce bouquin, au moment où je l'ai refermé, je me suis dit, quelle est la posture de l'art qu'il défend? Et c'est, étrangement, c'est une posture assez petit bras. C'est-à-dire que finalement, ce que défend Brecht Evans, c'est l'art comme moyen d'être tous ensemble, de vivre quelque chose. Et dans le fond, si on le fait, c'est qu'on n'a juste pas le choix, c'est la nécessité intérieure. C'est le bon vieux coup de la nécessité intérieure et on se dit... Quoi, c'est juste ça? Mais Brecht, tu viens de faire un bouquin de 200 pages en couleur dont les gens vont dire énormément de bonnes choses. Donc tu peux pas te contenter d'une posture de « on peut pas faire autrement, on le fait ». Et dans le fond, faire ce qu'on aime, même si après il n'y a plus de résultats, c'est déjà très bien. Parce que c'est pas suffisant. Donc il y a un truc où on se dit « tiens, c'est ça finalement ». Et j'étais quelque peu déçu du manque d'ambition de cette chute.
Moi, je suis pas convaincu que ce soit ça, parce que justement, je trouve qu'il y a une sorte de petit pied de nez où on s'achemine vers ça, ils chantent presque tous en chœur, voilà, on l'a fait pour ça et tout ça, l'art c'est important. Et puis les personnages se mettent un peu à dire un peu n'importe quoi. Et ça finit comme ça un peu, ils sortent une série de proverbes comme ça, les uns après les autres.
Justement, deux choses ultra convenues.
Voilà, deux choses ultra convenues. Et donc je trouve que là, il y a une porte, il y a une petite porte qui s'ouvre vers autre chose en fait. Et après, il y a encore un épilogue dont on ne parlera pas, c'est pas une poursuite en voiture, mais il y a encore quelque chose après qui n'est pas nécessairement relié à l'histoire. Donc je trouve que la fin finalement est peut-être pas si... Enfin, le message, je trouve, n'est peut-être pas si, si convenu que ça. Enfin, je trouvais ça en tout cas... Alors après, est-ce que c'est un pied de nez réussi? Est-ce que... Bon, ça, c'est peut-être une autre question. Mais je voilà. On s'achemine vers, exactement vers ce que tu dis. Mais il y a quelque chose à la fin qui est quand même différent. Il y a... Donc voilà.
Je trouve que l'avis de Stéphane par rapport aux Noceurs, parce que moi j'ai lu que les Noceurs, je trouvais bah, ce qu'il vient de redire est assez injuste, et je me souviens aussi de la séquence qui s'était dite sur Radio Grand Papier, parce que justement, comme il y avait deux personnages en présence, chacun incarnait un peu l'ironie par rapport à l'autre, donc du coup il y avait quand même un effet de distance par rapport au discours. Donc je trouve les Noceurs extrêmement réussis. J'ai découvert les premières planches du nouveau livre Les Amateurs de Brechtleben dans la revue Hey. Il y a une petite interview, c'est là où on découvre qu'il travaille à Les Collines, et il parle justement notamment de la transparence qu'il maîtrise, mais avec une virtuosité quand même assez époustouflante, et que cette transparence va évidemment très très loin, puisque c'est à la fois la transparence des couleurs, mais aussi le fait de pouvoir, comme on voit dans certaines scènes du Noceur, passer à travers les maisons, les bâtiments, et à travers les personnages, et donc tout ça, il y a une espèce de cohérence qu'il y a entre la technique, la façon de mettre en scène quand on passe à travers les objets et les murs pour découvrir des intérieurs, et la véritable introspection qu'il mène à travers les personnages. C'est un peu mal dit, mais je pense qu'on peut comprendre.
La forme et le fond sont en correspondance.
Ok. Donc,
il y a peut-être une analyse, et alors ça, je n'aurais pas osé la faire maintenant, mais je me demande s'il n'y a pas un sous-texte qui est aussi politique par rapport, et qui fait que le bouquin, justement, est situé en Flandre, parce qu'il parlerait aussi, peut-être, du rapport de la Flandre avec sa propre culture. Et ça, je pense que c'est un sous-texte qui pourrait être analysé, parce que je me demande si Brechtleben ne parle pas aussi du rapport de la Flandre par rapport à sa culture et par rapport à cette idée de construire une œuvre monumentale ou une culture, une œuvre culturelle qui serait d'une région, d'un petit village, mais qui serait une sorte de fable par rapport à la Flandre entière, que la Flandre essaye de construire au travers de ses institutions culturelles quelque chose de très particulier, une image extrêmement forte de ce qu'est la Flandre. Et pas juste l'art belge, l'art flamand.
En tout cas...
Et je pense que c'est une piste de lecture aussi dans ce bouquin, le rapport entre ce que fait aujourd'hui la Flandre avec sa culture.
Oui, je pense
sur le plan international, l'idée de séduire le monde au travers de sa culture.
En tout cas, il y a une épaisseur dans ce bouquin, quelque chose qui dit, quand on le termine, on se dit, ok, une deuxième lecture apportera quelque chose de plus. Parce qu'il y a une série de personnages décrits qui ont un rôle dans cette histoire, notamment le psychotique qui se fait virer de l'histoire, des choses, le rôle de chacun, le timide qui se met au service, etc. Donc une série de postures qui sont là sorties et dont on sent bien qu'elles sont aussi opérationnelles dans le discours de Brechtleben. Et ça, c'est plutôt de bon augure. On se dit, là, il commence à y avoir de l'épaisseur, du fond, quelque chose qu'on peut mâcher après avoir terminé le bouquin.
Livre soutenu par le Fonds flamand des lettres. Attends. Est-ce la dernière fois pour Brechtleben? ça, on ne le saura pas. Alors, on va enchaîner, parce que le temps presse, avec Vers la sortie de Joyce Farmer. Alors, c'est un premier bouquin pour Joyce Farmer, un auteur que moi, je ne connaissais pas avant ce bouquin, donc sorti chez Actes Sud l'an 2. Au niveau du scénario, on se retrouve donc... l'histoire de Lars et Rachel qui se font vieux, qui vieillissent, mais qui refusent de quitter leur pavillon du sud de la banlieue de Los Angeles, ça se passe là, et qui vont être assistés par Laura, donc qui est la fille unique du Lars en question, qui décide d'investir la majeure partie de son temps pour qu'il puisse rester dans cette maison et pour qu'il puisse continuer finalement à être indépendant. Donc elle commence à faire leurs courses, à leur préparer des plats, etc. Et l'idée, c'est vraiment qu'il puisse rester là et qu'il n'aille pas en maison de repos. Donc c'est un bouquin sur ça, sur la vieillesse. Ça s'appelle Vers la sortie. Alors, c'est la métaphore vers la sortie, donc vers la fin de notre existence. C'est un bouquin qui est déjà sorti en juin. Et pourquoi on ne le chronique que maintenant, alors que pour moi c'était un vrai coup de cœur quand je l'ai lu. Enfin, c'est bien c'est... plus qu'un vrai coup de cœur. C'est parce que, en tout cas, moi je trouvais, Nicolas est assez d'accord aussi, je crois, cette maquette est en fait assez, assez ratée. C'est vrai que c'est pas un bouquin qu'on avait, qu'on a envie de lire, grosso modo, aussi bien au niveau de la couverture que quand on l'ouvre.
La typo, le papier,
voilà, c'est très très dense. Bon, voilà, c'est. Mais c'est là pour moi le seul bémol, puisque finalement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. J'ai vraiment été profondément touché, en fait. Il y a une émotion qui est vraiment montée crescendo. Donc, c'est ce récit de la déchéance mentale et physique, sans complaisance et sans... Curieusement, on sort quand même de ce bouquin assez boosté, puisque finalement, on en connaît la fin... Si je ne vais peut-être pas la dévoiler, mais enfin, c'est pas dès le début, on devine vers quoi on s'achemine, vers une fin qui n'est pas heureuse. C'est un bouquin qui nous, comme je le disais, qui nous concerne tous. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce bouquin, c'est qu'il y a un véritable souffle. Il y a, je vais partir dans des réflexions sans doute assez naïves, mais il y a un vrai souffle d'amour, tout simplement, de tendresse de Laura, comme ça, qui s'occupe de son père et de sa belle-mère. Il y a un groupe qui se forme aussi, il y a beaucoup de solidarité autour de ce couple de vieux, pour qu'ils puissent donc continuer à vivre chez eux. Et pour moi, c'est vraiment un souffle qui porte tout le bouquin jusqu'au bout. Et voilà, je sais pas vraiment quoi en dire en plus.
On peut dire que du point de vue du dessin, c'est un dessin qui appartient à une lignée analytique, un dessin plutôt analytique que synthétique. Donc on a quelqu'un qui dessine pas formidablement, mais qui se donne la peine, la douleur. Parfois on a l'impression de dessiner du détail, de donner quelque chose qui... Et ce travail paye, parce que on sent cette difficulté, cette peine, donc on l'accompagne en disant « Allez, vas-y, tiens bon, encore plus que 100 pages. »
Et lié aussi à, je ne sais pas si c'est lié, mais elle parle à un moment pendant 10 ans. Elle remercie ses médecins qui, pendant 10 ans, ont réussi à lui maintenir sa vue. Mm-hmm. Et donc, on se doute qu'elle doit avoir des problèmes de vision assez importants, ce qui rend effectivement intéressant, parce que graphiquement, je ne sais pas si ça a un impact ou pas sur son style ou sur sa façon de dessiner, mais sans doute, on pourrait le penser, mais c'est assez intéressant.
Et donc, elle a mis longtemps à le faire. Absolument. On sent que ça a été douloureux. Bon, ça rajoute... quelque chose au bouquin, oui. Forcément, mais le bouquin, de façon, tient par lui-même aussi. Elle remercie Crumb, c'est clair qu'il y a une filiation, aussi bien la manière de traiter le récit que dans le dessin même.
Oui, Crumb qui dit que c'est un des meilleurs longs récits narratifs en bande dessinée qu'il ait lu avec Mouse, donc la comparaison est quand même assez énorme, et qu'il a été ému aux larmes.
Oui. C'est la déclaration. Eh bien, on est deux.
Eh bien, non, mais quand
je parle... On est trois, je trouvais ça...
Mais on
alors,
est quatre.
La surenchère.
Non, mais quand je parlais du dessin analytique maladroit, qui est une espèce de tradition, moi, je trouve que c'est une réelle force. Le mois passé, on chroniquait ce bouquin français,
Bat que pour vous, d'Isabelle Pralong.
Ouais. Qui est de Pralong, qui lui appartient plutôt au bad drawing synthétique. Et ici, moi, j'ai quand même beaucoup plus d'amour pour le bad drawing analytique, dont on sent qu'il tente de nous donner de l'information et ancre ces personnages dans la même réalité que nous. On a d'un seul coup des cuisinières, des voitures, des garages mal rangés, des essuies sur lesquelles pisse la femme. Donc on a une présence des corps de nouveau qui est vraiment, vraiment forte, quoi. Quelque chose qui nous entraîne. Et quand tu parlais du fait qu'on savait vers quoi ça s'acheminait, et évidemment on sait vers quoi ça s'achemine, Montaigne, et ce dessin analytique, il est redondé par une vision analytique du récit, c'est-à-dire que rien ne nous sera épargné. On va voir la déchéance des corps de ces gens, et même la déchéance mentale pour ce qui est de la belle-mère. Elle s'est décrite par mille de petits détails de quotidien, donc des choses qui se passent d'un jour à l'autre. En son temps, j'avais ressenti cette même sensation à la fois d'étouffement dans le septième continent de Haneke, qui, comme vous le savez, raconte une anecdote arrivée en Autriche, qui est un couple avec deux enfants décide de se suicider et le font de manière ultra méthodique en détruisant tout de leur vie, prenant leur argent, le déchirant dans les toilettes et détruisant l'ensemble de leur vie pièce par pièce. À un moment donné, les enfants disent « Ok, nous aussi, on voudrait... » Enfin non, l'aîné des enfants dit « Je voudrais aussi participer à ce suicide. » Et donc, l'ensemble de la famille se suicide et on sent arriver cette chose très loin, mais rien ne nous épargne, on l'en voit. Chaque détail de cette descente vers la mort de manière très crue. Ici, on a ça, mais on a en effet, comme tu le dis, Philippe, quelque chose qui est de l'ordre d'une puissance de l'amour, d'une puissance du respect, d'une puissance de la solidarité, puisqu'il s'agit de corps à corps accompagner un corps vers la mort, donc qui est vraiment bouleversante de beauté et qui est donnée par ce dessin et par cette façon de raconter extrêmement plate par moment, mais très très analytique, allant dans les petits détails de la vie. Dont s'excuse d'ailleurs le père qui dit voilà, à un moment donné, quand cette femme qui vient aider découvre que sa belle-mère ne se lève plus pour aller pisser, mais pisse sur un essuie et même chie dans cet essuie devant le visage un peu défait de sa fille, il dit voilà, oui, la vieillesse est faite de ces petites choses auxquelles de proche en proche on s'habitue dans le quotidien, et ces choses nous sont toutes données, et ça c'est très très beau et très très fort.
Oui. La force de l'amour, c'est que c'est vrai que ce souffle est super parce qu'on est porté. Alors, ceux qui ont lu Paul à Québec, puisque c'est un album qui a été extrêmement vendu, donc peut-être que c'est une référence pour des auditeurs. Mais voilà, si Paul à Québec a pu vous toucher, vous émouvoir, jetez-vous sur ce bouquin parce que je pense que il m'a porté encore plus. J'étais encore plus ému. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une force encore plus importante en lisant celui-là, alors que voilà.
Et juste pour la même thématique, est sorti il n'y a pas longtemps aussi La mort dans l'âme chez Futuropolis, qui traite vraiment, vraiment de ça. Mais voilà, c'est...
voilà. En fait, la naïveté du trait et du dessin, je trouve ici, produit pas mal d'expressivité graphiquement. Et donc, pense que ça peut que nous amener à rentrer dans le récit.
You're right.
Non, je voulais juste dire, par rapport à la couverture, ne pas se laisser... c'est bien de signaler la filiation avec Crumb et tout, parce que la couverture, on dirait plutôt une gravure expressionniste allemande. Et alors, je la trouve particulièrement mal choisie, parce qu'on a juste une impression de souffrance.
Oui.
Alors qu'en fait, c'est un moment de douceur où il se repose. Et quand tu dis que le livre finit mal, je ne suis pas d'accord du tout. En fait, moi, j'ai commencé à lire le livre avec énormément de réticence, en me disant, je ne sais pas si j'ai envie de lire ça, parce que c'est... quasiment tabou. Il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de savoir maintenant. On a des parents, et nous aussi, on sera vieux et tout. Enfin, il y a quelque chose quand même assez redoutable. Et en fait, plus tu avances dans le récit, plus il y a quelque chose qui se soulage dans le fait d'accepter. En fait, cette nana prend le destin, que ses parents sont en train de vieillir, qu'elle va les accompagner jusqu'au bout. Et pour moi, ça finit pas mal du tout. Plus tu vas vers la fin, plus ça se détend.
Mal dans le sens, plus... pour moi, où... c'est inéluctable, la fin.
Oui, mais il y a quelque chose de... C'est justement...
Il se rapporte à l'acceptation. Ou à l'accepter,
l'acceptation, et en fin de compte, il y a carrément même un idéal qui font que, en fait, ils seront accompagnés jusqu'au bout par leur fille. Et il y a quelque chose qui va de soi, comme ça, et qui fait que tu lis ça et tu vois les choses en face. C'est accompagné par cette femme, en fait, qui te dit, ben voilà, c'est comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose... Tu finis ce bouquin et t'es pas triste. Et y a
mal.
T'as dit ça finit mal.
Je vais pas le dire du tout.
Non, mais enfin, je trouve qu'il y a un moment, tu finis ce bouquin, t'es presque soulagé. C'est comme si t'avais osé aborder le sujet quelque part. Et tu fais un peu le tour de la question. Et oui, il y a la question de la sénilité, de l'incontinence et tout ça. Et c'est hyper dur. Et en même temps, c'est comme ça. Et quelque part, si tu choisis de te prendre ça bien en face et d'assumer ça jusqu'au bout, ben, je dis pas que c'est facile. Mais voilà, t'es accompagné, enfin, tout au long de l'histoire, tu vis ça, et je sais pas, je trouve vraiment pas que ça finit mal.
Mais qui a dit... Ok, Alors, juste petite dédicace oui, à notre ami David, à qui on pense souvent.
Qui l'a lu.
Rappelez-vous, il était parmi nous il y a quelques années dans cette émission.
Et qui a posté en grand la couverture américaine sur son blog en écrivant tout simplement « Je suis en train de lire ça et c'est tellement bien ». Donc, conseillé également par David Liebens depuis
Outre-Atlantique. Voilà, c'est dire s'il faut vraiment vous précipiter sur
ce bouquin. Je crois que David Liebens n'aurait pas aimé les amateurs.
Mais bon,
le livre est encore plus, lui aurait été encore plus insupportable tellement il est propre.
Alors, on l'aurait traîné dans la boue avant de lui donner. Ouais. Alors, on va finir la rubrique en parlant de Pierre Crignas, de Phil et Attaque, donc deux auteurs allemands, sortis aux éditions Frémok. Stéphane.
Oui. Alors, Pierre Crignas, c'est, d'après nos amis de Frémok, la recréation, et non pas une forme de traduction, du bon vieux Struwwelpeter, qui, je ne sais pas si je le prononce, à mon avis, mal en allemand.
J'aime beaucoup, moi.
Ça fait un peu Apfelstrudel, mais bon. Et qui, en fait, qu'on a traduit en français précédemment par Crassetignas.
C'est la traduction de Cavanna. Crassetignas, ah, oui. Ouais.
Donc il y a eu différents Pierre Lébouriffé pour les traductions les plus gentilles.
Et Lébouriffé, c'est un gars du MR donc, qui a trouvé
cette... Oui, au moins. Et en tout cas, donc, il s'agit de quoi ? C'est un bouquin qui était offert à la Noël, un peu comme Alice au Pays des Merveilles était en son temps offert d'un adulte à un enfant. Sauf qu'ici, ce livre qui a été écrit par un médecin un peu poète à 16 heures, était un bouquin fait pour édifier moralement des enfants de 3 à 6 ans, en l'occurrence, je ne sais pas si c'était son fils.
Son fils.
Eh bien, ça part comme d'habitude, comme se font les meilleures choses. Donc, il va dans des boutiques et il ne trouve pas un seul bouquin digne d'être offert à son gosse. Et donc, il décide de le faire lui-même, ce putain de bouquin. Et donc, il fait ce fameux Pierre Crignas, Pierre Lébouriffé, ce Crastinias. Moi, j'aime Crastinias parce que j'ai lu la version de Crastinias en son temps. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une série de petites histoires en vers complètement étrange, puisque en fait on a là quelque chose qui est à destination de l'élévation morale des enfants, donc des récits qui disent ne suce pas ton pouce, ne dis pas du mal des étrangers, pour 1845, date de la plus première publication, c'est quand même assez étonnant. Mais à côté de ça, le vecteur par lequel passent ces petites histoires sont tout à fait d'une cruauté sans nom, d'une méchanceté. Par exemple, l'enfant qui suce ses pouces se fait menacer que un type avec une paire de ciseaux géantes, le coiffeur passe par là et lui coupe les pouces. Et évidemment, comme il n'écoute personne, sinon son propre désir de régression, eh bien, voilà que par là arrive au galop ce fameux coiffeur qui lui coupe les pouces, mais qui lui coupe, quoi. Et donc, gloups. Et toutes les histoires sont à l'avenant. Donc, il y a une forme de méchanceté qui, évidemment, produit une forme de jouissance à la lecture, évidemment, puisqu'on est et qui fait qu'on se demande comment l'élévation morale peut surgir de là. Donc, comme tous les récits un peu moraux, ce qu'il en reste avec le temps, c'est le côté pervers, évidemment. Le côté pervers, non pas des personnages mis en scène, mais la perversité du narrateur lui-même. Donc, on dit toujours que dans les questions de morale, c'est toujours celui qui raconte qui est le plus douteux. Et là, ça se confirme parce que ce personnage du docteur, vraiment, se laisse, il va à bride abattue dans ce récit, et ça produit des choses qui, évidemment, sous la main de Attaque, devient évidemment doublement jouissif, puisqu'il se permet non seulement de réinterpréter les vers pour les traduire dans quelque chose de plus contemporain, dans lequel on va trouver des termes plus contemporain, de l'argot, des choses comme ça qui sont plus de notre temps, mais aussi il fait intervenir évidemment toute la même joyeuseté à dessiner du sang, des flaques, des doigts coupés et des enfants trempés dans l'encre. Et donc voilà, en fait, il y a grosso modo le plaisir qu'on peut avoir à tremper à salir des récits anciens en les trempant dans l'encre du réel, par exemple ce qu'a pu faire Yves Chaland en reprenant la ligne claire des années 40 et en la transformant en quelque chose de vraiment mesquin, de vraiment raciste, etc. Ici, est déjà dans le livre original, donc forcément on ne peut être que dans une forme de recréation, mais qui ne peut être dans le fond que en pur respect avec le bouquin original qui comporte déjà déjà la critique et l'anticritique de ce qu'il montre. Donc c'est un bouquin qui est assez beau, attaque, j'aime assez bien le style d'attaque, ici il travaille en couleur. On parlait de Brecht Evans, c'est d'un travail de déconstruction par l'image, ici on a quelque chose de cet ordre-là. On a en plus un univers très citationnel, puisque le médecin dont le nom m'échappe à l'instant, nous met des personnages de chats qui sont toujours là pour faire un peu les cœurs. On parlait tout à l'heure de tragédie, ils sont là en train de dire non, non, on ne fait pas ça, et il les transforme en des chats, le chat d'Eriman, et puis d'autres chats qui viennent, d'autres personnages qui viennent. Olive de Popeye apparaît aussi dans le bouquin, donc il recycle de l'imagerie moderne.
La filiation avec Popeye est énorme, parce que déjà au 19e siècle, que ça devienne un classique allemand, alors que c'était d'une subversivité, c'était politiquement incorrect au possible, et Popeye, c'était aussi pareil, c'était un langage chartier, c'était quelqu'un qui a soulevé l'indignation des associations de parents de l'époque aux États-Unis. Ouais. Et pour moi, je trouve la filiation entre ce classique allemand et ce qui a pu advenir après avec Popeye aux États-Unis, c'est pareil.
Donc voilà, assez réjouissant. Je l'ai lu avec mes gosses et on a bien ri.
Oui, c'est foisonnant aussi de détails sur chaque page. Moi, je trouvais un chat, en effet, sur une page à un moment, j'étais en train de lire, et puis je vois un chat dans le coin de la page qui est en train de fumer une clope, comme ça, tu te demandes un peu. Donc voilà, dans l'impression aussi qu'il a, il a pris du plaisir comme ça à construire chaque fois des univers graphiques pour chaque page. Et c'est,
il déborde facilement aussi. Hein. Il déborde aussi du récit. C'est vrai que c'est pas juste l'illustration de Krastinias. À un moment, ça part ailleurs. Et puis bon, on revient dans l'histoire.
Et il y a d'autres moments, dans l'histoire, par exemple, du chasseur ou même dans celle du coiffeur, il est très très proche des illustrations originales. Donc il y a ça assez étrange de voir comme il a, par moment, il dit ok, c'est déjà parfait comme ça, je vais juste le rafraîchir graphiquement. Bon, après, ils ne sont pas contents parce qu'ils disent qu'ils recréent, mais bon.
On a parfois l'impression qu'il y a encore plus de pages autour, qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été créés qu'on ne voit pas. Enfin, c'est assez...
C'est vrai que moi, j'ai une version, donc Pierre Lébouriffé, et le dessin est quand même assez sévère.
Ouais.
D'où l'intérêt d'avoir une version d'attaque qui est beaucoup plus généreuse et qui déborde de partout, qui déborde de vie. Plus intéressant.
Sur la page Wikipédia, on peut trouver les illustrations originales au grand complet, le livre, plus tous les textes même traduits. Donc c'est assez chouette de voir ce morceau qui est en
comparaison.
Oui, tout à fait.
Et il paraît que la traduction donc, pour le livre d'attaque est particulièrement soignée, en fait.
Oui, oui. De fait.
C'est aussi la qualité du texte. Oui.
Très bien, allez, on va s'écouter un peu de musique, on l'a bien mérité, vous aussi. Marty Robbins, Adios Amigo, alors c'est un morceau assez curieux, nous disait Jean-François qu'il a écouté, qui préparait les morceaux de l'émission. Et ça vient aussi donc de la playlist, j'ai retrouvé le mot maintenant, de la playlist de Olive Bouguer.
Ah, je voulais juste dire encore une dernière chose, c'est que c'est un tailleur et non pas un coiffeur qui coupe les doigts du petit garçon.
Merci Stéphane, c'est bien.
The song that brought us both together is slowly breaking my heart. We made a promise someday. Adios amigo, until tomorrow. We both must go our separate ways.
Voilà, ça c'est le problème des gens qui écoutent le podcast. Ils peuvent pas profiter des excellents morceaux de musique comme on vient d'entendre. Tout le monde se retenait pour pas chanter
Adios
avec.
Amigo. Voilà.
C'était de la bombe. En attendant, il y a Xavier qui nous a rejoint.
Salut.
Bonsoir Xavier, qu'on aura l'occasion d'entendre plus longtemps tantôt. Mais là, on va rapidement vous introduire la capsule d'Erwin. C'est le grand retour dans la capsule d'Erwin. Il reste deux épisodes.
Oui.
Et là, Stéphane, il nous parle de Frigidaire ce soir, notre ami Erwin.
Frigidaire était créé en novembre 1980. C'est une revue italienne donc, qui émerge en pleine vague post-punk. Et notre ami Erwin va nous en parler. Et notamment, c'est la revue qui va rendre célèbre Liberator et son fameux Ranx et Rox.
Frigidaire, revue italienne. Il y a eu quand même d'autres choses qui ont préparé Frigidaire. Deux revues essentiellement. Une qui s'appelait Cannibal, qui va durer de 77 à 79. Il y a je pense, une quinzaine de numéros qui étaient plus bricolés, on va dire, au niveau de sa réalisation, etc. Il y a eu également une revue qui s'appelait Il Male, qui à partir de 80 va faire amener là toute une série d'auteurs qu'on va retrouver aussi dans Frigidaire, mais qui était une revue elle, résolument satirique. Et elle va être dirigée par un certain Vincenzo Sparanga, qui en fait était connu aussi pour avoir fait toute une série de faux numéros de toute une série de revues célèbres, comme la Pravda par exemple. Il y a des faux numéros de la Stampa, des faux numéros du Corriere della Sera ou de la Gazzetta dello Sport. Enfin, tout ça dans une volonté satirique et aussi dans une volonté d'attaquer de front toutes les formes d'oppression de l'individu et la société italienne telle qu'elle fonctionne à l'époque. Là aussi, ça vaut la peine de refaire une petite mise en contexte parce que l'Italie de la fin des années 70 connaît une histoire extrêmement troublée qui est marquée par des attentats notamment d'extrême gauche avec les fameuses brigades rouges, mais il y a aussi pas mal d'attentats d'extrême droite. La mafia qui est évidemment omniprésente et aura parfois des collusions très douteuses avec le pouvoir. Et puis ce qu'on appellera la stratégie de la tension, c'est-à-dire que très clairement, et ça c'est historiquement prouvé, les services secrets italiens et des agents américains aussi vont provoquer une tension dans ce pays, parce que c'est un des rares pays d'Europe occidentale qui a un parti communiste très fort, et dans l'esprit de l'OTAN et des Américains, il est évidemment hors de question que ces communistes arrivent au pouvoir. Et donc il est bien clair que les groupes d'extrême gauche ont notamment été manipulés. Enfin, il y a aussi la fameuse loge P2 dont on a surtout parlé dans les années 90, dont faisait partie toute une série d'individus très puissants, que ce soit dans l'économie, dans la politique, dans la justice, et même au sein de l'Église, qui visaient à étendre leur pouvoir et de réfréner tous les mouvements contestataires qui étaient nés autour de mai 68. On a souvent dit qu'en Italie, mai 68 avait duré jusque dans toutes les années 70. Donc tout ça nous amène un petit peu ce contexte-là. Et donc quand Frigidaire apparaît en 80, c'est un petit peu la fin de tout ça. On se réveille un petit peu avec la gueule de bois dans une espèce de nihilisme qui va profondément marquer ces revues. On sent une époque finalement assez désespérée qui est marquée aussi par un certain cynisme, par l'expression d'un certain vide, de l'échec de certains modèles, chose qu'on trouvait aussi par exemple dans Métal Hurlant à partir des années 77-78 par là. Globalement, Frigidaire est une revue qui mêle à la fois bande dessinée et aussi beaucoup de reportages assez violents dans leur conception. On va souvent traîner soit chez des travailleurs clandestins, des reportages sur des membres de la mafia, puis aussi suivre des tournées de groupes de rock, ce genre de choses. Donc vraiment dans cette tradition du yellow journalisme de Hunter Thompson. Le sommaire est international. On y trouve notamment Shelton ou Crumb, par exemple, qu'on va retrouver là-dedans, Munoz et Sampaio, des choses comme ça. Quelques grandes figures qu'on trouve là-bas. Il y a un personnage important qui va aussi s'occuper des maquettes, qui est Stefano Tamburini, qui était aussi un des responsables éditoriaux de la revue. Maquette assez proche d'ailleurs de ce qu'on trouvait à l'époque, par exemple toutes les maquettes des pochettes du label Factory, Joy Division, etc., avec Peter Saville, ce fameux graphiste. Je sais pas s'il y a une influence, ou j'ai plutôt l'impression, parce qu'on est vraiment à la même époque finalement, d'un certain état d'esprit commun. Tamburini s'occupe beaucoup de ça, c'est un scénariste, et sa création la plus célèbre qu'il dessine au départ est le fameux Rank Xerox, qui est ce personnage de robot au pénis absolument monstrueux, créé à partir d'une photocopieuse de marque Rank Xerox, qui vaudra d'ailleurs au créateur des problèmes avec les responsables de la marque, d'autant que le contenu, comme on a bien compris, n'est pas innocent. On se trouve effectivement là dans quelque chose qui est une forme de nihilisme punk caractérisé, hein, de cette espèce de science-fiction où plus rien n'a de sens, marqué aussi par la science-fiction de quelqu'un comme James Ballard, par exemple. Tamburini va le dessiner au début. C'était pas encore dans Frigidaire. Un autre auteur, Pazienza, je vais revenir sur lui dans quelques instants, va dessiner aussi. Et puis celui qui va donner sa forme la plus connue, qui est Tanino Liberator. Au niveau du contenu, c'est évidemment, on retrouve une forme de nihilisme punk. Par contre, le dessin est très très travaillé. On a souvent comparé Liberator à Michel-Ange. On retrouve effectivement cette espèce d'exaltation des corps, mais en même temps des corps très très musculeux comme ça. Il utilise aussi des produits de maquillage pour hausser, pour donner une espèce de coloration très flash, mais un peu passée, assez particulière, qui sera véritablement une signature picturale de l'auteur. Voilà, ça va vraiment être le gros succès de la revue, qui sera à la fois un beau succès commercial et un succès de scandale par la même occasion. Les deux choses font souvent bon ménage. Alors Pazienza, que j'évoquais tout à l'heure, est vraiment une des grandes figures de cette revue. Il fait partie lui aussi de l'équipe éditoriale. Personnage dont je m'étonne d'ailleurs qu'il soit mais complètement inconnu dans les territoires francophones. Il n'y a pratiquement rien de ce qu'il a publié qui a été traduit en français ni dans d'autres langues. Quelques petits machins dans l'écho des savanes, mais c'est vraiment très très limité. Alors je ne me l'explique pas tout à fait. J'ai l'impression vraiment s'il y a peut-être un auteur de ces 30-40 dernières années où là il y a vraiment un manque par rapport à ce qu'on peut trouver, même en cherchant dans les rééditions, enfin en termes de traduction, c'est vraiment pas Pazienza. Mon copain italien me disait c'est peut-être lié aussi au fait que c'est un auteur qui traite beaucoup d'une réalité qui est proprement italienne, y compris dans le langage. Du point de vue graphique, on peut faire des liens qui sont assez évidents, par exemple, à quelqu'un comme Moebius. C'est clair que le garage hermétique l'a profondément marqué. Il y a aussi une déconstruction de la narration qu'on retrouve là. Et puis, de nouveau, c'est assez typique de l'époque. Il y a un effet de collage, c'est pas Pazienza, puisqu'on trouve des personnages très grotesques qui ressemblent à du Shelton ou même à du Walt Disney. Il y a des choses qui ressemblent parfois à du Manara. Enfin, il y a quelque chose de très très curieux là-dedans, puis des choses complètement photoréalistes aussi. Le personnage qui apparaît dans Frigidaire est le personnage de Zanardi, qui est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années, et Pazienza le dit lui-même, ce qui caractérise ce personnage, c'est sa vacuité. Ce personnage est vide, il n'a rien dans la tête. C'est un peu à la même époque qu'il y a le fameux Blank Generation de Richard L. and the Voidoid. C'était un morceau punk américain qui avait été souvent considéré comme socialement représentatif de ce qu'était le vide de cette génération du punk et de la new wave, des derniers feux de 68 qui sont éteints de cette période où, après avoir beaucoup espéré, on ne sait plus trop, le conformisme social a repris ses droits. C'est un petit peu aussi quelque chose qui caractérise tout le mouvement punk et qui est véritablement incarné dans une revue comme Frigidaire. Pazienza était aussi un dessinateur de presse assez remarquable qui n'a pas du tout gâté les politiciens italiens de l'époque, et puis qui va avoir une destinée tragique qui est d'ailleurs évoquée dans son tout dernier album qui s'appelait L'ultimo giorno di Pompeo, donc les derniers jours de Pompéi, qui raconte l'histoire d'un dessinateur de bande dessinée héroïnomane. C'est pas à proprement parler à quelque chose d'autobiographique, mais le récit se termine par la mort du dessinateur, et là Pazienza a préfiguré ce qui était son propre destin, puisque en 88 il décède il y a une trentaine d'années d'une overdose d'héroïne, ce qui sera le cas de Tamburini aussi. Donc de nouveau, comme on le trouvait dans Métal Hurlant, et j'ai l'impression qu'ici c'était peut-être encore bien pire, les drogues ont eu une importance assez considérable dans cette revue, avec tout ce que ça a pu gérer comme euphorie, mais tout ce que ça a pu avoir évidemment de destructeur. Et alors il y a aussi Massimo Mattioli, qui fait partie de l'équipe rédactionnelle, qu'on connaît un peu ici, parce qu'il publiait M. le Magicien dans Pif Gadget, qui était une création évidemment pour enfants, très minimaliste, qui a été rééditée par l'association, donc qui était d'une inventivité assez exceptionnelle. Et là, l'époque a changé avec les années 70, donc lui aussi va aborder d'autres sujets, va aborder des thématiques dites adultes qui étaient difficilement envisageables dans ses bandes dessinées pour enfants, et c'est peu dire qu'on va avoir une espèce de renversement où on retrouve des références notamment à Disney, à Anna Barbera, à Tex Avery, etc. C'est vrai que c'est des bandes dessinées qui sont construites comme des dessins animés avec des personnages, des animaux anthropomorphes, quelque chose mené tambour battant, une espèce de mouvement exacerbé, mais dans lequel on injecte des thématiques qui viennent du cinéma gore ou de la pornographie. Donc ça forme de nouveau une espèce de carnaval complètement délirant et complètement jouissif. Voilà. Jean-Philippe Martin disait que c'était une sorte de carnaval postmoderne. Et c'est vrai que c'est un peu une composante de tous ces récits-là, c'est que c'est des récits dont on a peut-être l'impression, a priori, qu'ils ne nous racontent rien. On n'est plus tout à fait dans une esthétique de la rupture comme on l'était dans les années 60. On va rechercher des modèles anciens, comme le fait Mattioli, en convoquant Walt Disney ou Tex Avery ou Anna Barbera. On reprend une esthétique qui est immédiatement familière pour le lecteur, et puis évidemment le contenu est complètement différent, donc on joue sur cet effet de rupture, on a l'impression d'être en terre inconnue, et évidemment ce qu'on nous raconte est plutôt une sorte d'envers du miroir. Voilà. Mais bon, c'est une revue dont on a souvent dit qu'elle s'arrêtait peut-être véritablement, elle existe toujours, mais peut-être que sa grande période s'arrête avec la disparition de ses grandes figures, hein, donc Tamburini et Pazienza, et c'est sûr que la revue va un peu évoluer, un petit peu comme le fera l'Écho des Savanes aussi, et donc cette espèce de pornographie qui est affichée là et qui était quelque chose de transgressif à un moment donné, vire dans une forme d'érotisme racoleur qui est assez comparable à ce qu'on a vu, pas que ce soit Métal Hurlant ou même Charlie mensuel à la fin, ou l'Écho des Savanes, ils ont tous connu un petit peu cette destinée-là.